Ladies and gentlemen, you're listening to CBN on Radio Bottas.
No flash, no scoop. C'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatasse.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Eh bien, bonjour chers auditeurs et auditrices, et bonjour chers collègues.
Bonjour Philippe.
Roland.
Bonjour Alain.
Nous voici réunis une fois de plus pour une super émission pleine de bonnes nouvelles et
quel
de bonnes
bonheur,
choses.
Quel bonheur, j'attends ça chaque mois.
Bon, et qui vont vous donner la patatasse, le printemps arrive en plus, tout ça.
Bien
donc,
sûr. Ouais,
il est là même quasiment.
Les
donc,
abeilles, les papillons.
Quasiment l'été.
C'est quasiment l'été, oui, parfois.
Pas aujourd'hui.
Donc, on va enchaîner tout de suite sur nos bonnes nouvelles du monde. Alors, Alain, à toi.
Alors donc, en ce moment, il y a beaucoup de... Il y avait une émission à France Inter là, ce midi même. Là. On compare un peu l'époque actuelle, surtout la fin proche de l'époque actuelle, avec les années folles. Les grandes crises font souvent naître une furieuse envie de vivre, comme ce fut le cas dans les années 1920. Après les traumatismes de la Grande Guerre et juste à la fin de la Grande Guerre, la terrible grippe espagnole, 50 millions de morts quand même. Un siècle plus tard, l'histoire peut-elle se répéter ? À l'approche de l'été, et alors que les vaccinations s'accélèrent dans de nombreux pays riches, en Afrique c'est moins net, on sent bien cette folle envie de recommencer à vivre, un peu partout sur la planète. Pour l'hebdo américain Bloomberg, il y a un parallèle évident entre ces deux époques. C'est avec l'investiture de Warren Harding, le 29e président des États-Unis, en ce 4 mars 1921, que démarre une décennie historique. L'humeur est maussade, et nul n'aurait pu croire que les États-Unis étaient sur le point de faire une fête de tous les diables. C'est la décennie effervescente. Art déco, jazz, Walt Disney, Gatsby le magnifique et la renaissance d'Harlem. C'est aussi un boom économique incroyable. Généralisation des chaînes de montage des voitures, la radio, le cinéma, la plomberie et les appareils électriques. C'est le début aussi du consumérisme et de la culture de masse. En France, c'est un boom culturel, les années 20, extraordinaire. Joséphine Baker avec sa jupe de banane. Le mouvement fabuleux des surréalistes Breton, Aragon, Éluard, Desnos, Miro, Dali, Picabia. Pour le cinéma, c'est le début de Buñuel et de Cocteau. Mais la vie a plus changé entre 1920 et 1929 qu'elle ne le fera probablement entre 2020 et 2029. Pendant une pandémie, il y a une montée de la religiosité. Les gens deviennent plus sobres sur le long terme, parce qu'au début du confinement, quand même, il y avait beaucoup d'apéros.
Oui.
Ils économisent, ils fuient les prises de risque. Pour Nicolas Christakis, épidémiologiste et sociologue, toutes les tendances visibles aujourd'hui vont s'inverser. Dans un avenir proche, discothèques et stades feront le plein. Et le monde des arts connaîtra une prolifique renaissance. Ce regain pourrait aussi passer pour un grand moment de libertinage sexuel, d'extravagance dépensière et de recul de la religiosité. Aux périodes troublées succèdent toujours les jours heureux. Et alors si vous voulez, j'ai un petit agenda... un petit agenda du retour à la vie normale, si ça vous dit. Alors donc, c'est dans le courrier international de cette semaine. Là, Et donc, printemps 21, donc, le titre un peu générique, c'est patience.
Oui, bon, d'accord.
Donc, la vie quotidienne continuera d'être loin de la normale. Après, été 21, parenthèse enchantée.
Ah.
C'est-à-dire, les familles vont à nouveau se réunir, les restaurants vont ouvrir, les gens vont voyager. On croira peut-être que la pandémie est derrière nous, même si ce n'est pas le cas. Ça sera comparable à l'été 2019. Et il sera possible d'accueillir des gens, une vingtaine d'amis chez soi pour un barbecue le jour du 14 juillet. Après, on passe à l'automne-hiver. Donc, après le relâchement estival, bon, ça va un petit peu redémarrer. Mais comme il y aura beaucoup de vaccins, ça devrait le faire.
Bon, tout ça, c'est...
Bon, les vaccins
ça va le faire, ça va
non, mais
faire.
Surtout... La pratique hospitalière et les vaccins vont limiter le nombre de formes graves. Voilà. Et il y aura moins de tensions hospitalières. Et alors là, après, hurrah, 2022, voilà, alors c'est là, à partir c'est du printemps ou de l'été 2022 qu'on pourrait retrouver les activités.
Open bar, toujours.
Sans masque et sans inquiétude.
Voilà. Toute la nuit.
le virus existera toujours, mais quand même, ça sera, voilà, il circulera que pendant
un Doliprane est terminé.
Voilà, que pendant les mois les plus froids. Bon, j'espère que ça vous a remis un petit peu
au
cœur.
Ah oui, voilà, tu nous as remonté le moral. Ouh. Eh bien, moi, hier matin, je me suis réveillé tout en joie. Vous me connaissez, moi, grand sceptique.
Ça, c'est bien.
Moi qui suis un grand sceptique en nos chances d'un avenir meilleur, eh bien, imaginez que j'ai découvert que certains grands dirigeants de groupe ont peut-être intégré la notion que sans le bien-être de leurs ouvriers qui produisent, ils ne représentent rien. Et ça, c'est une énorme bonne nouvelle pour les salariés de Stellantis depuis le 3 mars. Stellantis, ça vous dit rien ?
Non, non.
C'est le nom du groupe qui est né en janvier dernier de la fusion de PSA, donc
Peugeot-Citroën,
et de Fiat-Chrysler. Ouais. Donc là, on a affaire au quatrième groupe automobile mondial en termes de véhicules vendus. 8 millions de véhicules livrés en 2019. Donc ça veut dire qu'en 2020, conséquence de la pandémie, ils ont morflé comme tout le monde. C'est-à-dire que les ventes ont forcément chuté, 27,8% uniquement pour PSA. Avec des chiffres pareils, d'autres annonceraient des licenciements massifs, vous êtes d'accord ? Eh bien non. Le directeur général de Stellantis, il s'appelle Carlos Tavares, a malgré tout salué le travail des équipes. Alors j'ouvre les guillemets parce que ça mérite d'être entendu. Je veux leur dire toute ma reconnaissance, toute mon admiration. Je veux leur dire qu'ils se sont comportés comme de manière admirable, a-t-il affirmé, en annonçant le versement d'une prime d'intéressement à ses salariés en guise de remerciement. Et c'est 430 millions d'euros qui seront versés et répartis entre environ 50 000 personnes salariées de PSA Automobile France. Ça représente un plancher de 3 000 euros brut par salarié. Vous imaginez le pouvoir d'achat donné à un smicard ?
C'est pas négligeable du tout.
Eh bien moi je roule en Peugeot et depuis mercredi je me sens très fier de cela.
Ouais, c'est cool.
Alors quant aux tribulations d'un aventurier aux dernières nouvelles réfugié au Liban... On peut constater qu'à la loterie des grands dirigeants de groupe...
L'autre Carlos, tu veux dire.
Il semblerait que Renault-Nissan n'ait pas recruté le bon Carlos. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus.
Alors, moi, je vais vous parler de technologie. Donc, voilà, donc on entend souvent parler de high-tech. J'imagine que, Alain, Roland, vous avez le dernier iPhone 14 ou 15, je ne sais plus.
Pas du tout.
J'ai pas de portable, je suis désolé.
Pas du tout.
Eh bien, ça tombe bien, voilà, parce que donc j'ai été très intéressé par l'interview d'une personne qui s'appelle Philippe Biwix, qui est ingénieur. Et qui est un peu un membre actif, promoteur de ce qu'on appelle les low-tech. Alors. Parce que, bon, d'après lui, le high-tech...
Les trucs en panne, tu veux dire ? C'est les trucs qui marchent doucement ?
Non, tu vas voir, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, le high-tech, ben, on en parle souvent, hein, c'est toutes vous savez ce que c'est, voilà. Et pour lui, ben, de toute façon, en continuant dans la voie du développement des high-tech, on va dans le mur, hein, parce que ces high-tech, en fait, elles servent pour l'instant uniquement, on va dire, à gérer le risque de pénurie. Alors, grâce à la haute technologie, on arrive à extraire un peu plus de pétrole des puits qui sont presque ces grands consommateurs de ressources, hein, surtout de ressources métalliques, donc on le sait, hein, pour les téléphones, oui. Les métaux rares, etc.
Oui, c'est rare, ouais.
Voilà, les agrocarburants, ben c'est pareil, en fait, ça fonctionne, mais le problème, c'est que ça prend des terres agricoles, et etc. Et c'est, au niveau des sols, c'est pas forcément top. Donc toutes ces high-tech, eh ben, pour lui, ben voilà, on fait fausse route. Hein. Il parle même du renouvelable, en fait, qui finalement repose aussi sur, ben, sur de la construction, on va dire, un peu non durable. Des éoliennes, au bout d'un certain nombre d'années, il faudra les recycler. Les panneaux solaires aussi. Donc alors, il n'est pas... Bon, évidemment, il reconnaît que c'est des étapes aussi. Hein. Il faut peut-être en passer par là. Mais lui, il milite pour le low-tech. Et ben voilà, ben, je vais le citer aussi parce que c'est intéressant, donc sa définition. Alors, c'est monsieur Biwix là, qui parle. Je pars du principe que l'économie circulaire est un doux rêve. Il n'est pas possible de recycler à 100% les objets que nous utilisons. Tout ce qui est en train d'envahir notre quotidien, l'électronique, les puces, les nanotechnologies, et consommateurs de ressources. Moins de 1% des petits métaux utilisés par les high-tech sont recyclés. Il faut inverser la réflexion et aller vers des objets low-tech, des basses technologies. Low-tech, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie, de progrès, de savoir de science ou même de technique assez évoluée pour fabriquer les objets. Mais ça veut dire que ces objets, simplement, ils doivent être réparables, modulaires, récupérés au maximum, sans perte de ressources au moment de leur recyclage. Voilà, c'est un peu la définition du low-tech. Alors, il donne un exemple, ben, c'est le vélo, par exemple. Voilà. Le vélo,
on peut c'est toujours réparer, quoi.
Voilà, le vélo, ben, c'est quand même un peu compliqué à construire. Hein, mais bon, oui. Voilà, il y a de l'alésage, il y a des pièces, mais par contre, c'est un objet qui dure dans le temps, qui est réparable facilement, qui peut être recyclé parce que voilà, hein, on prend des pièces d'un tel pour mettre sur un autre vélo, voilà. Et donc ben, tout ça, si d'autres exemples par exemple, parce que c'est intéressant. En fait, sont d'autres exemples, par exemple les pneus de voiture. Et à 160 000 tonnes de pneus qui sont usés par an, si de pneus de voiture de tourisme. Si on généralisait tout simplement le rechapage des pneus pour véhicules des particuliers, on économiserait tous ces 160 000 tonnes de pneus.
Bien sûr.
Son maître mot aussi, c'est la sobriété, en fait. Il y a des choses qui, pour lui, je suis assez d'accord avec ça, ne servent pas à grand-chose et qui sont consommateurs d'énergie, de ressources, par exemple les imprimés publicitaires, les chaussures de sport qui clignotent quand on marche, les sacs plastiques, bon là, voilà. Nous pourrions décider d'avoir moins de formats de bouteilles, dit-il, un peu plus de différenciation sur l'étiquette afin d'embouteiller au plus près des marchés, voilà, la consigne, enfin tout ça. Tout ça, c'est de la sobriété.
Et puis l'achat en vrac, la bouffe en vrac
voilà,
aussi.
Tout ça, c'est du bon sens, en fait, mais c'est pas encore suffisamment appliqué. Voilà, donc pour lui, c'est la solution. Hein. Alors, forcément, c'est un peu liberticide parce que, par exemple, il prend l'exemple de la voiture, et ben, les grosses bagnoles, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait des voitures plus légères, plus petites.
Les SUV, là, toutes ces saloperies.
Voilà, toutes ces grosses voitures qui consomment beaucoup de ressources et voilà. Donc, c'est intéressant. Je vous engage à lire son article. C'est sur le site
à part Peugeot,
peut-être.
À part les Peugeot, Roland. Il y a les Peugeot quand même.
On te l'accorde pour ce coup-ci, mais la fois prochaine.
C'est pas un SUV ta voiture, toi, non.
Voilà. Bon, donc, si vous voulez le lire, eh bien, je vous engage à aller sur le site Positive Air et vous aurez tout son interview, il développe toute cette pensée.
Il doit parler de l'obsolescence programmée aussi, tout ça.
Oui,
ça,
ben,
c'est trop
ça
bien.
Ça fait partie de la low-tech.
C'est cool.
Donc, ben, on peut écouter un petit peu de musique peut-être après cette bonne nouvelle. On écoute Avilo Longbat.
Le propriétaire de tous les dossiers.
Le propriétaire Longomba.
Ça, c'est la techno soukous. Ah oui, le Longomba. Le propriétaire de tous les dossiers. Hey. Avec la participation de Jocelyne Berroa. Le véritable tumeur. Yo, attends.
Bien, moi je vais vous parler de nos cousins suédois. Vous savez qu'ils ont toujours un peu une longueur d'avance sur nous, en règle, en matière de vie sociale, hein, n'est-ce pas ?
Et de transport aussi.
Et ouais. Mmh. Alors là, c'est la ville d'Amsterdam qui innove, puisque cette ville est gouvernée par une dame qui s'appelle Marjolaine Moorman et qui s'est aperçue que les jeunes Amsterdamers âgés de 18 à 34 ans étaient considérablement endettés.
Donc, à cause de leurs études.
Ouais, ouais. Alors donc, elle a décidé de prendre en charge les dettes de tous ces jeunes sur un programme qui est vraiment très ambitieux. Voilà. Pour savoir quand même, la problématique, c'est que plus d'un tiers des Amsterdameurs âgés de 18 à 34 ans ont des dettes. 34%, c'est énorme. Selon la dette étudiante moyenne aux Pays-Bas est passée de 12 400 euros par étudiant à 13 700 euros en 2019. Donc ça veut dire que le nombre de personnes endettées d'études a également augmenté, augmentant de 388 000 pour atteindre 1 400 000 étudiants. Donc le problème est à prendre. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, dans le cadre du projet d'essai de la ville, une banque de crédit municipal a été mise en place et se propose de racheter les dettes.
Ah oui, ils rachètent les crédits et tout ça.
Tout
ah
à
oui.
fait. Alors, pour convaincre les créanciers de revendre les dettes, on leur propose une prime de 750 euros pour inciter à transmettre la dette à la banque municipale. Ensuite, ça va se passer au cas par cas. C'est-à-dire qu'il sera... Il sera je vais vous citer plus...
Mais au final, c'est la mairie qui paye les dettes ?
Ah non, non. La mairie va remettre en place des rééchelonnements. Elle va rééchelonner la dette.
Oui, d'accord.
Elle va étudier les cas. Je vais vous citer ce que dit Mme Moorman au lieu de dire... la majorité de ces jeunes ont commencé avec des arriérés et en raison de la malchance ou de l'ignorance, se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas sortir sans aide. C'est pourquoi nous allons maintenant les aider afin qu'ils puissent prendre un nouveau départ. Alors, ils vont proposer aussi aux jeunes de faire des actions, civiques au niveau de la municipalité pour... Pour compenser, il y en a qui sont certains.
On leur demande de s'investir un peu, oui.
Voilà, tout va être. Mais c'est quand même un programme très ambitieux.
Ah oui, très bien. Ouais.
Voilà.
Mais comme la mairie de Florac pour le permis de conduire, il faut qu'ils aillent dans une association un petit peu. Là.
C'est un peu ce qu'on. C'est un peu dans ce style-là. Oui. Voilà, on essaie. Puisque tu en parles, on aide au permis de conduire pour les jeunes. Mmh. Et aussi, on a mis en place aussi un remboursement des trajets entre Florac et Mende pour les demandeurs d'emploi aussi.
Ah ouais.
Voilà, bon, ça va dans ce sens, mais c'est pas aussi ambitieux que...
Mais
là, c'est pas rien, hein, ce qu'on met en place.
C'est important ce que tu dis, parce que, par exemple, aux États-Unis, la dette étudiante, c'est 1 000 milliards de dollars. Oui. C'est une folie absolue, en fait. Parce que tous les étudiants, en fait, payent des grandes écoles américaines qui sont très, très chères. Mmh. Et après, s'ils n'ont pas de boulot, quand ils sont avocats, s'ils n'ont pas de boulot, ils n'arrivent pas à rembourser. Et donc, ils sont SDF.
On a des SDF qui arrivent en fin d'études, surdiplômés, et qui, par conséquent, n'ayant même pas d'adresse à fournir, ont du mal à trouver de l'emploi, tout simplement. Ouais. C'est un vrai problème. Bon, il faudra s'inspirer de cette innovation.
Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle au cinéma, même deux, mais surtout une. C'est la sortie le 15 septembre 2021 du peut-être chef-d'œuvre. J'ai vu que la bande-annonce, mais ça donne envie, de Dune.
Ah, Dune.
Avec ses vaisseaux libellules. Et c'est le petit génie du cinéma, Denis Villeneuve, qui a déjà fait Sicario, Premier Contact, et Blade Runner 2049. Donc il y a une distribution qui est vraiment superbe. Et puis bon, c'est... Enfin, il faut aller voir Dune, quoi.
Je me souviens d'un film Dune où il y avait Sting.
Ouais, qui était un navet absolu, qui avait été raté.
Ah, d'accord.
Et donc, après, ils ont essayé de le refaire.
Mais je m'en souviens quand même,
il faut oublier ça, oublier le Sting.
Oh, d'accord.
Qui était tout en cuir, là, mais c'était une merde absolue.
Vive le nouveau, alors.
Voilà, vive le nouveau. Ouais. Et pour les mordus de l'humour un peu décalé d'OSS 117, il y a la sortie de Alerte Rouge en Afrique Noire, qui a été fait par Nicolas Bedos, toujours avec Jean Dujardin.
D'accord.
Voilà, bon cinéma à tous. Et vivement que ça... Bon, vive alors, le cinéma, vivement que ça ouvre.
Alors, pour finir, je vais vous parler d'éclairage public, moi. Voilà.
Ah.
Ouais. Alors l'éclairage public, bah, vous savez que c'est quand même consommateur de beaucoup d'énergie, mmh. Et parfois pour pas grand-chose, hein, puisque des rues éclairées, des ronds-points,
il y a personne qui passe, quoi.
Voilà. Alors que sur les voitures, normalement, il y a des phares. Bon, voilà. Donc, alors, il existe des solutions. Après, je vous donnerai un petit exemple un peu plus concret, là. Des solutions techniques, il y en a. Bah, les éclairages à LED, orienter les lumières vers le bas.
Et qui s'allument quand il y a du passage aussi.
Voilà, les détecteurs de mouvement. Alors, comme nous, ici, on est en réserve de ciel étoilé, hein, le parc national a édité un guide, en fait, à l'usage des collectivités, où il précise tout ce qu'on peut faire, en fait, pour économiser de l'énergie. Et là, je voulais vous parler d'un exemple. Ça se trouve, c'est à Pont-de-l'Arche, en Normandie. Et eux, ben voilà, ça peut être une autre idée aussi. Parce que, en fait, ne pas avoir du tout d'éclairage public, bon, c'est bien sur le plan de la consommation, mais ça peut parfois être un peu gênant quand on doit se déplacer dans les rues et tout ça. Hein. Bon, on peut avoir une frontale, mais c'est un peu compliqué.
Au niveau sécurité aussi, peut-être.
Voilà, au niveau sécurité, et puis pour les personnes âgées, tout ça, c'est... Donc là, il y a un ingénieur qui a mis au point pour la commune une petite application sur le téléphone qui permet de commander à distance l'éclairage de sa rue. Il a fait tout un système. En fait, la ville est divisée en secteurs. Et quand vous avez des invités qui partent de chez vous après le repas à 3h du matin, enfin ça c'était avant, ça sera après,
oui. Voilà. À 17h tu veux dire.
Voilà, 17h30 après le thé.
16h30 en fait. 16h30.
Et ben, vous pouvez éclairer le parking où ils sont ou la rue où vous êtes. Il suffit de pianoter sur votre téléphone et vous mettez l'éclairage dans la rue. Voilà. Alors carrément. De chez toi, tu peux allumer ta rue. C'est à Pont-de-l'Arche. C'est une ville de 4500 habitants, hein, donc c'est pas non plus une mégalopole.
Mais c'est pas une petite ville
échelle,
non plus.
Oui, voilà, mais c'est à une échelle raisonnable, on va dire, comparée à nous ici. Et ben, ça leur a permis d'économiser 7000 euros par an, là, la première année. Et comme c'est un truc qui se développe,
va et vient.
Voilà. C'est une solution en plus qui m'a semblé intéressante.
Moi, j'ai vu un truc complètement fou, mais qui est lié à ça. C'est que dans une ville à côté de Londres, en fait, quand, pareil, sur les smartphones, tu dis où tu vas. Et il y a un drone, il y a des garages à drones, il y a un drone qui t'éclaire jusqu'aux bouches de métro, jusqu'au truc, jusqu'au parking et tout ça. T'as un drone, et après, hop, il rentre.
Mais on ne pourrait pas imaginer les boutons de minuterie comme on trouve dans les immeubles.
Ah oui.
Oui, oui. Alors, les détecteurs de mouvement.
Comme dans les chiottes,
par exemple. C'est...
boutons de minuterie sur les poteaux, là, tu passes.
Alors, les détecteurs de mouvement, c'est très bien aussi. Hein, ça s'allume que quand on passe. Mais apparemment, techniquement, pour l'instant, c'est un peu compliqué à mettre en place par secteur. Donc, voilà.
Oui.
Mais moi, j'ai un souvenir vraiment très, très agréable. Quand je suis arrivé à Ruas, il y a presque 50 ans, en fait, le premier qui se levait, il éteignait la lumière. En fait, il n'y avait qu'une lumière dans le village.
Ouais.
Et les gens l'allumaient vraiment quand il faisait nuit noire. Quoi.
Oui.
Il y en a un qui sortait des maisons pour l'allumer, pour dépenser le moins de courant possible. Et bien sûr qu'ils ont supprimé ça.
Mais la bougie, c'était déjà pas éteinte.
Moi, je suis un adepte de la frontale pour tous.
Ouais. Bon, faut qu'on skie, je crois.
Toute cette salve de bonnes nouvelles, on peut écouter un peu de musique. On va écouter Massive Attack.
Ah, très bien.
Eh bien voilà, maintenant nous sommes arrivés à l'heure de notre rubrique célèbre CBN bien de chez nous, donc les bonnes nouvelles bien de chez nous. Alors aujourd'hui on reçoit Morgane et Alain. Alors est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Alors Alain, on t'écoute.
Ben oui, je crois qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque cette année on va fêter sur ce territoire magnifique que sont les Causses et Cévennes les 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial.
Voilà, donc déjà, bon, ça c'est la bonne nouvelle. Alors peut-être qu'on a attaqué un peu fort, vous pouvez déjà vous présenter et nous dire qui vous êtes. Après, on en saura un peu plus sur ces festivités. Alors Morgane, tu veux...
Alors Morgane, donc, voilà. Je suis directrice de l'Entente Causses et Cévennes, donc c'est la structure qui gère le site qui est reconnu au patrimoine mondial.
Le nom de famille peut être cité, je pense.
Ah, d'accord.
Oui, bien sûr. Oui.
Okay.
Bien sûr.
On a des
habitudes... On ne travaille pas dans l'anonymat total.
Donc Morgane Costemar, je suis directrice de l'Entente Causses et Cévennes et je suis aussi chargée du patrimoine.
D'accord. Et monsieur Alain, bon, t'es donc, un peu connu.
Voilà. Donc chargé du tourisme et de la communication à l'Entente interdépartementale des Causses et Cévennes.
D'accord. Et ça, alors, ça se trouve où l'Entente Causses et Cévennes? C'est quoi?
Alors l'Entente, elle est basée à Florac maintenant depuis un an et demi au 23 Terre avenue Jean Monestier. Donc c'est sur l'avenue principale de Florac. On a un grand jardin et pour ceux qui ont l'habitude de passer devant, on voit
fond,
un
voilà.
beau portail bleu.
Je pense que beaucoup
avec
de gens
votre logo
connaissent...
magnifique là, en bleu. Là.
C'est ça.
Beaucoup de gens connaissent la porte d'entrée là avec...
Voilà.
Avec le logo.
Mais il faut oser passer la porte d'entrée.
Oui.
Et après, il y a un beau jardin. Puis il y a un espace d'interprétation qui est ouvert depuis l'été dernier, qui permet de justement découvrir ce que c'est que les Causses et les Cévennes, pourquoi
c'est
un site UNESCO.
C'est quoi un espace d'interprétation?
Alors, c'est un endroit ludique qui donne de l'information sur, pour nous, ce qu'est l'inscription, ce que c'est que le patrimoine mondial. Et donc, il y a des modules, il y a des meubles avec des manipulations, il y a de l'écran interactif, mais pas que, il y a des cubes. Les enfants peuvent dessiner sur un mur. Donc ça, c'est intéressant.
Oui, cool.
Et c'est un espace qui est gratuit, avec des animations tous les jeudis l'été, dans le jardin. Voilà, c'est vraiment un lieu qui se veut convivial et permet de découvrir ce qu'est ce patrimoine mondial.
Alors effectivement, moi-même, enfin, on n'est peut-être pas très nombreux à avoir franchi la porte, en fait. Mmh. On passe tous les jours devant, quasiment, mais d'accord. Bon, ben, c'est l'occasion voilà, de nous présenter
ça.
Tout ça. Alors bon, il y a un espace d'interprétation dans la cour. Mmh. Qui permet de mieux comprendre ce que sont les Causses et les Cévennes.
Oui.
Voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe dans le reste, dans le bâtiment? C'est quoi? Vous êtes nombreux? Vous n'êtes pas nombreux?
Alors, dans le reste du bâtiment, en fait, on est 6 personnes à travailler à l'année à l'Entente. Donc, on a chacun un peu une spécialité. Donc, Alain, comme il vous l'a dit, s'occupe de la com et du tourisme. On a une personne qui s'occupe spécifiquement de l'agropastoralisme. Une autre qui s'occupe de tout ce qui est paysage et observatoire, SIG.
SIG, c'est la cartographie.
Voilà, c'est ça, qui est cartographe. On a ensuite Léna qui a rejoint l'équipe là, au mois de janvier, qui a été embauchée spécialement pour l'anniversaire. On a Anne-Claire qui s'occupe des animations de l'été, de l'accueil du centre d'interprétation, et puis aussi un peu tout l'administratif. Et moi-même qui m'occupe plus du volet patrimonial et puis tout ce qui est un peu tout ce que les gens n'aiment pas faire sur la direction.
Alors parlons de cet anniversaire.
Oui, donc cet anniversaire, ça aura lieu tout au long de l'année puisqu'on prévoit chaque mois pratiquement quelque chose qui aura lieu sur le territoire. Alors ça ne va pas se faire uniquement sur Florac, ça va se faire même sur les villes portes et puis à l'intérieur du territoire puisqu'il faut savoir que ce territoire il est sur 4 départements. L'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère. Donc, c'est un des plus grands sites UNESCO au monde. Et donc, on va essayer de dynamiser un petit peu tout le territoire. Donc, pour l'anniversaire, la première grande manifestation, c'est en avril prochain, la sortie d'un livre.
Donc, c'est les 10 ans. Hein.
C'est les 10 ans. La sortie d'un livre avec des randonnées pédestres qu'on pourra faire en famille. C'est des balades familiales. Ça s'appelle Belle Balade en Causses et Cévennes. C'est fait avec les éditions Belle Balade. Et ça va donc sortir le 13 avril prochain.
D'accord, donc là c'est un topo de rando.
C'est ça, il y a 20 randos sur le territoire.
D'accord, là donc sur Lozère, Aveyron et...
Gard, Hérault.
Ouais, d'accord. Ouais. Et donc c'est des randos qui vont mettre l'accent plus particulièrement sur certaines parties du Causses.
Oui, qui vont mettre en avant la richesse naturelle et patrimoniale du site. Donc il y a aussi une application qu'on peut embarquer avec le topo guide via son smartphone. Et dessus, en fait, quand on passe devant des éléments, on peut cliquer et avoir une interview d'un spécialiste. Et puis, il y a plein d'autres applis, comme voir ce qui nous attend en 3D. Voilà, c'est quelque chose qui se veut pour un public familial. Et ça a été dur de choisir, en fait, les 20 plus belles randos, ce qui nous paraissait 20 plus belles randos sur 4 départements. Voilà.
Et comment on devient site mondial de l'UNESCO ?
C'est très compliqué. Il faut beaucoup de patience, ça c'est la recette.
Beaucoup de dossiers.
Ça
a commencé quand ? Avant les 10 ans.
Un petit peu d'histoire.
Alors en fait, le site donc, a été inscrit en 2011, mais avant ça, ça a été 11 ans de procédure. Donc c'est 11 ans de candidature. Et... Donc 3 dossiers présentés à l'UNESCO, 2 qui ont été chaque fois recalés pour manque de précision. Voilà, ou précision apportée supplémentaire.
Sur le principe, il n'y avait pas de problème. Et
c'était un argumentaire fort. C'était un argumentaire fort qu'il fallait développer, d'autant plus qu'on était sur un patrimoine atypique. En fait, il y a peu de sites UNESCO qui sont inscrits par rapport à une agriculture. Et nous sommes dans la catégorie paysage culturel. Et ça, paysage culturel, c'est quelque chose d'assez nouveau à l'UNESCO. En fait, c'est des paysages qui sont bâtis par l'homme. Parce qu'à l'UNESCO, vous avez la catégorie, admettons, des sites naturels, la barrière de corail, volcan, des choses comme ça. Et nous, il fallait reconnaître, en fait, une culture qui façonne un paysage, qui était l'agropastoralisme. Mais du coup, effectivement, c'est 11 ans de recherche, de dossier, d'écriture. C'est quelque chose de très, très long, quoi.
Et si un jour, il n'y a plus assez de bergers sur les côtes, est-ce que ça peut être menacé ? Parce qu'il n'y aura plus d'agropastoralisme à ce moment-là.
Alors en fait, une inscription sur la liste du patrimoine mondial, ce n'est pas effectivement indéfini. Si le site perd ce qu'on appelle sa valeur universelle exceptionnelle, ce qui a fait qu'il a été inscrit, il peut perdre son inscription. Et effectivement, si un jour on imagine qu'il n'y a plus de bergers, qu'il n'y a plus d'entretien de l'espace, on va forcément modifier les paysages qui ont été inscrits et on pourrait perdre cette inscription. Si ça venait à arriver.
Et donc, de la part de l'UNESCO, il y a une évaluation tous les ans, tous les...
Alors, de la part de l'UNESCO, il y a une évaluation tous les 7 ans.
Tous les 7 ans.
Et en fait, ça se fait sous forme d'un rapport périodique. C'est un gros questionnaire, à peu près de 600 questions. Oui. Et après, ça peut déclencher une visite sur le terrain pour mieux comprendre.
Pour apprécier,
voilà. Et donc, nous, on va attaquer justement cet exercice cet été. Voilà, ça va arriver. Le rapport périodique arrive en juillet 21. Mais on a à peu près un an pour le remplir. Donc, voilà.
En fait, on peut affilier ça aux étoiles du Michelin pour les restaurants. Quand on sait qu'il y a beaucoup de touristes, notamment étrangers, qui sont guidés par ce critère de site UNESCO, donc ça, c'est important pour notre territoire.
Oui, c'est une renommée. On dit qu'un site UNESCO, un site, quand il est inscrit, c'est 30% de fréquentation en plus. Alors, nous, c'est très dur à estimer, parce que, comme le disait Alain, déjà, le territoire est immense. On a cette caractéristique-là d'être un bien particulièrement grand. Et en plus, on n'a pas de compteur, on n'a pas de site propre de visite pour le moment qui permet de quantifier ce flux-là, quoi.
Alors, on va se faire une petite pause quand même,
oui,
là, et puis on va écouter M. Jean Ferrat, donc La Montagne.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Eh bien voilà, alors Alain, est-ce que tu peux, bon là on a eu un peu la présentation dans le détail, mais par exemple au niveau du tourisme, quelle est la plus-value qu'apporte l'entente au territoire? Alors est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples?
Effectivement, il y a plusieurs plus-values sur le territoire par rapport à une inscription. Déjà, il faut savoir que, comme le disait Morgane, un site inscrit, c'est un surplus de touristes sur le territoire.
Ça, c'est
donc
sûr.
Difficilement quantifiable, comme on l'a dit, puisqu'on n'a pas, nous, d'observatoire pour l'instant touristique.
Oui.
On ne l'a pas encore mis en place, on est en train d'y travailler dessus. Et puis, on a tout un réseau d'ambassadeurs, ce sont des prestataires touristiques qui sont basés sur le territoire, qui peuvent être des giteurs, des guides, des accompagnateurs.
Des restaurateurs.
Des restaurateurs, qui sont là pour faire la promotion de ce territoire. Donc, on les forme deux fois par an. Il y a une première formation lorsqu'ils adhèrent au réseau ambassadeur. Et puis après, ils sont formés deux fois par an sur des thématiques bien précises en accroche avec le territoire. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un plus parce que...
Ça de compétences, voilà, de diffusion de l'information. Et, d'accord. Et par exemple, pour l'agriculture, alors parce que là, on a parlé du tourisme, mais j'imagine qu'il y a c'est d'autres formes d'action pour les agriculteurs au niveau de l'entente.
Alors pour l'agriculture, c'est vrai, et en lien également avec le tourisme, bon, on organise des visites de fermes sur des activités agropastorales, donc ça permet de valoriser le métier aux agriculteurs, de parler de leur métier. Oui. Après, nous, on a, d'une façon un peu plus institutionnelle, on a une veille sur la PAC, la politique agricole commune, et là, on est en pleine de l'actualité, justement pour essayer aussi de défendre au mieux les intérêts de ce pastoralisme traditionnel. Et là, c'est un travail important qui est mené, qui ne se voit pas, mais qui est important au niveau des lobbying, voilà, et
travail,
des choses à faire remonter.
Un travail plus de fond, en fait.
Ouais, ouais, exactement.
Et pour rebondir, vous êtes financé par qui? Parce que c'est l'UNESCO qui vous finance ou c'est les partenaires des institutions locales?
L'UNESCO ne nous donne pas un centime. C'est vrai que ça... Non, mais ça fait partie souvent des idées préconçues qu'on a eues au début. En fait, le fonctionnement de l'entente, comme on est sur le territoire s'étend sur 4 départements, il est à part égale financé par les 4 départements, qui donnent 80 000 euros chacun par an. Donc voilà, c'est notre budget de fonctionnement. Et après, on va chercher des sous via des subventions sur des projets en particulier. Voilà.
D'accord. Ah ouais.
Après, il y a quelque chose qu'on pourrait souligner qui me semble important, c'est le E de UNESCO qui est éducation. Et là, on fait tout un travail aussi avec les écoles du territoire. Et si tu veux en dire quelques mots, puisque c'est toi qui t'en occupes.
Oui,
et pour le spécial 10 ans, dans les bonnes nouvelles.
C'est que le travail avec les écoles, vraiment pour les 10 ans.
Non, alors on le fait toute l'année. Toute l'année, on répond aux demandes des écoles. Alors ça peut aller du primaire au lycée. Voilà, on va dans les écoles.
Il faut le demander, donc avis au.
Oui, voilà.
Et après, en contact avec l'entente, oui.
On répond avec plaisir. Oui. On s'adapte aussi aux demandes des enseignants. Et là, cette année, on a une petite opération phare avec 3 écoles avéronaises qui travaillent, qui sont en train, là, cette semaine en plus, d'écrire le scénario pour créer 3 petits films d'animation en lien avec notre anniversaire et qui seront présentés tout au long de l'année.
Et en Lozère, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de collège qui sont aussi.
Alors, pas pour ces films-là. Après, on a des demandes, voilà, on a des interventions prévues dans des lycées et des écoles, mais pas sur la réalisation de films. C'était un projet particulier qu'on a monté avec Aveyron Culture, qui demandait un financement spécifique et voilà, et un lien avec le savoir à Roquefort. Donc, c'était une opération bien particulière pour les 10 ans. Mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'on va intervenir dans d'autres écoles de Lozère, mais pas pour des films.
Et vous intervenez, par exemple, si on imaginait qu'il y ait des zones sans glyphosate ou des zones très protégées, est-ce que vous avez votre mot à dire là-dedans ou comment ça se passe au niveau protection? Est-ce que l'UNESCO vous impose des choses où on peut faire n'importe quoi dans le périmètre de...
Alors, c'est un peu le point faible d'un site UNESCO, c'est qu'en fait, on n'a pas de réglementation. Ça n'engendre pas d'outils réglementaires ouais. de police derrière.
Vous pouvez être force de proposition quand même.
Voilà, oui. Alors on peut donner un avis.
Il y a pas de, oui, c'est pas comme le parc national qui peut lui.
Non,
oui.
Voilà.
Promulguer des décrets ou autre. Ouais.
On peut recommander, inciter, donner notre avis. Oui. Après, il est pris en compte ou pas. Mais,
on parlait du parc. C'est votre partenaire privilégié ou c'est à égalité avec les communes, la région, le département?
Donc on a plusieurs partenaires, c'était co-gestionnaire du territoire, le parc national des Cévennes, comme le parc naturel régional des Grands Causses du côté de Millau, ou les grands sites, puisqu'on a aussi le grand site de Saint-Guilhem, plus bas dans les Hauts.
Ça va.
Oui, d'accord.
Le grand site de Navacelles.
Ah oui, ça va loin comme ça.
Voilà. Et puis ici, le grand site en projet des Gorges du Tarn.
Donc, et c'est quoi la superficie alors du...
Alors c'est 3000 km². D'accord. De territoire inscrit, plus 3000 km² de territoire tampon. Ça fait au total 6000 km².
Ouais, comme une zone périphérique, quoi.
C'est ça.
D'accord.
Et le siège est à Florac, je voudrais le noter quand même.
Ah oui, c'est vrai. Un peu de chauvinisme, Roland, on compte sur toi. Alors peut-être que du coup, pour allécher un peu les gens, un peu de programme là, de ce qui va se passer.
Oui, tout à fait. Alors bon, le point fort cette année, ça sera le 3 juillet, puisqu'on avait été inscrit le 28 juin 2011. Vu que le 28 juin, ça tombe un lundi, on a repoussé au week-end d'après. Donc, ça sera le 3 juillet où on fait une grande fête donc, du côté de l'Aveyron, puisqu'on a choisi un territoire sur le territoire.
On n'est pas chauvin, tu peux y aller.
C'est l'Aveyron qui s'est proposé donc, de nous accueillir. Ça sera à la ferme de Brocu et Joule, du côté de Millau. Et toute la journée, il y aura des tas d'animations avec des conférences le matin, des animations grand public l'après-midi. Et beaucoup d'autres choses, des concerts le soir, des marchés gourmands. Donc il y a tout un tas d'activités qui seront proposées à la ferme de Brocu et Joule le 3 juillet.
Et alors peut-être des choses un peu plus proches de notre région.
De notre région, effectivement, on aura des expositions, notamment
donc
à Florac.
La maison de l'Entente.
Voilà, ouais. À Florac, il y aura des expositions à la maison de l'Entente, mais aussi en ville, puisqu'on travaille avec le conseil municipal. Où on va accueillir une exposition qui s'appelle La pastorale africaine. C'est une exposition magnifique de Hans Sylvester, qui est un grand photographe.
C'est magnifique, je l'ai vu à Photo Braque, c'est somptueux.
Ouais.
Ah
ouais.
C'est
tout
somptueux.
À fait.
Donc, ah oui, vous avez les grandes photos là.
Oui,
qui seront exposées à Florac. Il y en aura sur le pont de la gare, il y en aura du côté de la chambre verte.
On va faire un couloir sur le pont.
Le pont en fer.
Et ça se poursuivra sur le mur de la
sous-préfecture. Et ça se terminera à l'Entente, où on aura aussi quelques photos. Donc ça sera un peu le point fort. Et puis on aura aussi une guirlande qui fera un petit peu le côté festif dans Florac, qui sera attachée dans les rues avec les portraits de gens qui aiment ce territoire, qui sont fiers d'habiter sur un territoire UNESCO. Donc ça sera 150 portraits de 70 cm sur 70, avec le nom, le prénom, la profession et le lieu d'habitation de la personne.
On a d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, on a d'ailleurs fait un appel à candidature sur Facebook, la page Facebook de la ville, pour ceux qui veulent se faire représenter en grande dimension.
Et c'est plutôt des bergers, c'est plutôt des gens un petit peu...
Ça peut être tout le monde, des gens qui sont fiers d'habiter sur un territoire UNESCO, et on lance un appel, puisque effectivement, il reste encore des places pour ceux qui le souhaitent.
Pas de distinction, des simples citoyens qui se sentent les pieds sur leur territoire.
L'équipe de CBN va présenter Alain Christophe. Donc,
je pense, ça serait nécessaire.
Pourquoi c'est bien
spontané.
Ça serait nécessaire, même primordial.
C'est bien d'habiter sur un territoire UNESCO.
Parce que d'être un territoire UNESCO, c'est déjà un atout par rapport à d'autres territoires. Ça veut dire qu'on est un territoire reconnu mondialement. L'UNESCO n'est pas un label touristique en soi, mais c'est, entre guillemets, le label touristique le plus connu au monde. puisque l'UNESCO est répandu partout sur le
C'est un lieu extraordinaire, quoi, sur la planète. Quoi.
C'est ça.
D'accord.
C'est reconnaître aussi, nous, en ce qui nous concerne, mais c'est reconnaître aussi une activité agricole, reconnaître le travail d'hommes qui ont façonné ce territoire, comment ils s'y sont adaptés, comment ils y ont travaillé. Oui. Et surtout, on est paysage culturel et vivant à l'UNESCO. Ça veut dire qu'on est sur un paysage qui vit. On a 1400 exploitations agricoles sur le territoire qui continuent de façonner ce paysage. Quoi.
Oui, oui. Et dans le monde, il faut savoir qu'il y a à peine 1100 sites inscrits à l'UNESCO, donc c'est quand même pas énorme.
D'accord.
Et on a cette chance ici, sur ce territoire, de l'avoir.
Ouais. D'être 1 sur 1000, ouais.
Et pour en revenir justement à cette expo, l'idée, cette expo qui sera un peu qui sera aérienne, on l'a appelée un paysage mille et un visages, pour montrer que derrière un paysage, en fait, c'est des hommes qui participent à le façonner, à le protéger et à le gérer. Et c'est pour ça qu'on a souhaité représenter et donner un peu d'humanité à ce paysage et à ce site UNESCO.
Et qu'on joue à l'humanité, il n'y a pas quelques photos de moutons quand même, parce qu'ils sont sur le logo et tout ça.
On les aura dans d'autres expos.
D'accord.
Mais là, on a vraiment souhaité mettre les humains au cœur du paysage, que ce soit enfant ou adulte. Hein. On précise bien, n'importe qui peut candidater. C'est jusqu'à la fin du mois, il faut des photos en bonne qualité, mais sur notre site internet, il y a toutes les infos.
Et les élus sont exclus. Hein.
Ah. Très bien, on arrive au terme de notre petite interview. Alors, peut-être qu'on peut rappeler un site internet, donner l'adresse du site internet et un téléphone où on peut trouver toutes ces informations. Et puis, on peut aussi aller vous voir directement, j'imagine.
Mais tout à fait, la porte est ouverte.
C'est pas une structure fermée.
Donc, le site internet, c'est www.cos-e-cevennes.fr. Cos-e-cevennes.fr.
Cos-e-cevennes avec les tirets.
Voilà. Ouais. Et le numéro de téléphone, c'est le 04 66 48 31 23.
Très bien, merci à vous d'être venus.
Merci à vous.
Merci Morgane, merci Alain.
À très bientôt.
Pour toute cette manifestation. Et puis,
merci.
À très vite.
À bientôt.
Merci beaucoup. Bon vent à l'entente. Ouais, rendez-vous pour les 20 ans.
Il faudra souffler les bougies.
Merci.
Il y aura un gâteau à Florac quand même, il y aura quelque chose.
On est en train de réfléchir.
Ah, un gâteau géant, parce que...
oui.
Ouais. Allez, super. À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, maintenant, on va écouter une petite lecture qui fait du bien. Roland,
as-tu
préparé ce mois-ci ?
Alors là, je vous ai trouvé un texte de Voltaire. Donc, vous connaissez l'impertinence dont a fait preuve Voltaire, bien sûr. Il n'était pas seulement impertinent, il était aussi très amoureux des femmes, très consommateur aussi. Et donc, il y a un texte là qui s'adresse à une jeune veuve qui devait certainement poursuivre de ses attaques. Je vous livre un peu ce texte qu'il a écrit à son encontre. Jeune et charmante objet à qui, pour son partage, le ciel a prodigué les trésors les plus doux, les grâces, la beauté, l'esprit et le veuvage, jouissait du rare avantage d'être sans préjugé ainsi que sans époux. Libre de ce double esclavage, joignez à tous ces dons celui d'en faire usage. Faites de votre lit le trône de l'amour, qu'il ramène les ris bannis de votre cour par la puissance maritale. Ah, ce n'est pas au lit qu'un mari se signale, il dort toute la nuit et gronde tout le jour. Ou s'il arrive par merveille que chez lui la nature éveille le désir, attend-il qu'à son tour chez sa femme il s'éveille ? Non. Sans aucun prélude, il brusque le plaisir. Il ne connaît point l'art d'animer ce qu'on aime, d'amener par degrés la volupté suprême. Le traître jouit seul, si pourtant c'est jouir. Loin de vous tout lien, fût-ce avec Plutus même, l'amour se chargera du soin de vous pourvoir. Vous n'avez jusqu'ici connu que le devoir, le plaisir vous reste à connaître. Quel fortuné mortel y sera votre maître ? Ah, lorsque d'amour enivré dans le sein du plaisir, il vous fera renaître, lui-même trouvera qu'il l'avait ignoré.
Bon, eh bien, merci. Merci, Roland. Je crois qu'Alain, tu voulais rajouter quelque chose, donc là,
J'ai un dernier petit conseil de lecture, là.
De lecture pour le mois.
Voilà, pour le mois, mais c'est un petit peu épais, mais c'est vraiment très agréable. C'est Le Monde et la Vie fondés hors série. Il y en avait un sur l'Atlas de l'Humanité, là, c'est sur l'Atlas de la Terre, comment l'homme a dominé la nature. C'est juste un petit bijou. Avec, c'est, il y a tout un tas de chapitres. Donc, si vous pouvez picorer dedans, c'est vraiment bien. Ça va de l'invention à l'agriculture, au premier baby-boom du néolithique. Et il y a un truc à la fin sur le... maintenant, que fait-on, quoi ? On parle tout le temps, on nous bassine avec le réchauffement climatique, avec tout un tas de catastrophes futures, là. Et il y a, ils ont interviewé des scientifiques qui refusent de baisser les bras et qui ont confiance dans l'avenir, des personnalités de renommée internationale engagées dans la sauvegarde de l'environnement. Alors, il y a Sylvia Earle, qui s'occupe des profondeurs de la mer. Il y a Julia Carabias, l'ange gardien de la forêt mexicaine. Il y a Sin Bicarol, le passeur de culture scientifique. Et puis, il y a tout un tas de gens qui disent vraiment comment on peut voir l'avenir sans se tirer une balle, quoi, voilà. Et c'est assez intéressant. Les villes qui cherchent un nouveau souffle, la finance verte. Il y a vraiment plein de choses. Et je vous recommande tous les atlas de la Terre là, de cette coproduction Le Monde hors série et la vie. Et puis, c'est très beau.
Merci Alain. Donc on va s'écouter un petit peu de musique.
Oui, en année post-électorale et post-électorale, il y a le titre d'un groupe sud-américain qui s'appelle Le Peuple Uni Jamais ne sera vaincu. Il faut se rappeler qu'il faudrait peut-être un peu s'unir au lieu de faire un concours d'égo dans toutes les élections et éviter de se faire balayer à chaque fois par le libéralisme.
Voilà, ça c'est dit donc.
Allez. Avant de partir, je voudrais donner une bonne nouvelle pour les anges, s'ils existent, puisqu'ils viennent de voir avant-hier apparaître notre ami François Capelier qui nous a quittés. Voilà, on a une pensée pour lui parce qu'on sait qu'il intervient sur cette radio et voilà, il va bien nous manquer.
Il était très important pour cette radio et, ouais. et puis pour beaucoup de Flora, quoi.
Ouais, tout à fait.
El pueblo unido jamás será vencido.
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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. Anuncia ya la vida que vendrá.
De pie marchar, el pueblo va a triunfar.
Será mejor la vida que vendrá.
A conquistar nuestra felicidad.
Y en un clamor mil voces de combate se alzarán.
Dirá canción de libertad
con decisión.
La patria vencerá.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad.
De norte a sur se movilizará.
Millones ya imponen la verdad
de aceros
Eh bien voilà, on arrive au terme de notre émission. Donc, eh oui, le temps passe vite, hein, cher Alain, cher Roland. Voilà. Alors cette émission, vous pouvez l'écouter le mardi à 9h du matin et le samedi à 16h. Donc voilà, Alain.
Et moi j'ai juste un mini truc à dire. Voilà. J'étais à la manif là, pour tous les réfugiés que notre chère préfète veut expulser. Avec fracas, et je voulais remercier quand même tous les élus qui se sont mobilisés. J'en ai en face de moi, Roland, et un grand merci à la maire de Florac, Fleur Théron, parce que je sais qu'elle s'est beaucoup bougée, et tous les élus aussi, mais vraiment merci, et merci à elle en particulier.
Le challenge n'est pas encore.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné.
Non.
Voilà, on peut aussi aider la famille là, si on écoute les annonces de Bartas. Voilà. Eh bien, à très bientôt à tous.
Ciao.
Bye bye.
Et restez vivants.
It was CBN on Radio Bartas. Thanks for listening.